Né d'un désir de partager des solutions simples et efficaces aux femmes actives afin de leur permettre de vivre une vie remplie de vitalité, d'abondance et de sens, Les Essentiels d'Annie est un podcast dédié à permettre à la femme active de s'informer et de se responsabiliser face aux différentes sphères de sa santé. Les Essentiels d'Annie s'adressent à la femme cherchant des alternatives naturelles pour vivre une vie remplie de santé, vitalité, abondance et inspiration. Bienvenue sur Les Essentiels d'Annie. Bienvenue sur l'épisode numéro 12 du podcast Les Essentiels d'Annie, le podcast pour la femme active cherchant des alternatives de santé naturelle. Mon nom est Annie Lachance, je suis une passionnée de santé au naturel, maman d'un jeune garçon de 7 ans, en couple depuis plus de 12 ans maintenant, entrepreneur, massothérapeute, en confinement naturellement, présentement, conseillère en santé mieux-être holistique depuis 2014 chez les Huiles de la Chance. J'aide les femmes à avoir plus d'énergie, de focus et de vitalité à l'aide de solutions naturelles et je trouve une grande, grande satisfaction et responsabilité à aider les femmes à rester concentrées sur leurs priorités, à créer des relations authentiques avec elles pour les amener là où elles veulent aller. J'utilise ma pensée stratégique pour vous aider à aller à voir les différents scénarios qui s'offrent et je vous fais économiser du temps, de l'argent, de l'énergie en vous montrant étape par étape et simplement comment faire en vous partageant mon expérience et mes connaissances avec confiance et bienveillance. Donc, je vous invite à me suivre sur Facebook ou Instagram sur les Huiles de la Chance. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment le grand plaisir de recevoir en entrevue Dr. Ghislain Lacourcière, docteur en chiropratie qui s'est spécialisé dans une branche de la chiro qui est peu connue du public et je pense que vous allez aimer ça. Donc, docteur Lacourcière est chiropraticien depuis 2004 et a étudié et a fait son doctorat en chiropratique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il a aussi de nombreuses implications sociales et communautaires. Il a été président de l'Assemblée du World Congress of Chiropractic Students, où il a représenté la chiropratique québécoise à travers le monde. C'est un passionné par sa profession, vous allez l'entendre tantôt. Il a même fait une mission humanitaire avec l'Université du Québec à Trois-Rivières en Bolivie. Et parce qu'il parle couramment l'espagnol. Donc, aujourd'hui, on fait l'entrevue en français. On ne fera pas une entrevue en espagnol, inquiétez-vous pas. Donc, c'est un passionné de voyage. Il a même été le seul chiropraticien volontaire en Inde lors du terrible tsunami en 2004. En 2012, il a fondé Chiro de Gamme à Gatineau, un cabinet de santé haut de gamme où il inspire ses patients à vivre en santé naturellement. Bienvenue, Ghislain. Vraiment contente de te recevoir aujourd'hui.
Merci, Annie.
Restez jusqu'à la toute fin de l'épisode parce que vous allez avoir accès à un petit bonus de la part de Ghislain. Donc, merci de venir nous parler aujourd'hui de ton parcours, de venir nous inspirer. Donc, raconte-moi un peu comment ça s'est passé ton chemin vers la neuro-optimisation. Comment ça a commencé la chiropratie pour toi?
En fait, ça a commencé très jeune. Moi, j'ai une famille de médecins. En fait, du côté de ma mère, c'est toutes des médecins. Mon oncle est médecin, mon grand-père était médecin, mon arrière-grand-père était médecin. Selon ma mère, on aurait eu 7 générations de médecins. Puis moi, j'ai comme brisé un petit peu cette tradition-là, mais je voulais quand même être docteur, mais docteur naturel. Je me souviens, quand j'étais petit, au primaire, on avait une journée sur les professions. Puis le professeur, elle me disait, « Ben toi, ton oncle, c'est un professionnel de la santé. » Puis moi, dans ma tête, je comprenais pas ça, c'est ce concept-là. Puis en passant, je suis pas contre les médecins, au contraire, on a besoin de la médecine, on a besoin de la chirurgie, on a besoin des médicaments, c'est nécessaire. Mm-hmm. Juste que ça, souvent, ça sert à traiter des maladies. Puis moi, quand j'étais petit, je comprenais pas parce que je faisais des otites à répétition. Donc, quand je faisais une otite, mon oncle me donnait des antibiotiques. Quand je faisais plus d'otite, je faisais rien. Jusqu'à temps que j'aille me baigner, que je fasse à la piscine, et là, que je refasse une autre otite, encore des antibiotiques. Moi, je comprenais pas ce côté-là de santé. Donc, mon oncle, lui, il me dit, ben, quand je suis rentré bon, au cégep, mon oncle voulait que je sois médecin, moi, j'ai pas voulu. Et quand il a su que je voulais devenir chiropraticien, ben, il a failli me renier de la famille. Ça s'est passé durant un souper de famille. Et la raison pour laquelle je suis allé en chiropratique, en fait, c'est que à l'âge de 16 ans, je joue au football. Puis là, on avait, pour les gens qui nous écoutent puis qui ont déjà joué au football, il y avait un fameux exercice qu'on appelle le casque à casque. En gros, c'est qu'il y a, forme deux lignes opposées. On a une ligne a le ballon, l'autre ligne va arrêter la personne qui a le ballon. Quand on se rentre dedans, justement, en bon québécois. Et donc, on a fait le casque à casque et moi, j'ai eu une commotion cérébrale suite à ça. Je suis allé voir 4 médecins, un neurologue, un physiothérapeute, durant un mois et demi de temps. Puis j'avais encore des symptômes, tout à l'heure, mal à la tête, difficulté à me concentrer. En passant, j'avais perdu la vue de l'œil gauche durant 2 heures suite à l'impact, mais ma vue était revenue. Et je dormais des 10 à 12 heures par jour, je n'étais plus capable de me concentrer à l'école, j'étais même plus capable de mettre mes verres de contact. Donc, je savais plus qu'à aller voir, j'étais bourré de médicaments. Et là, un jour, j'étais allé voir un optométriste, parce que je savais plus qu'à aller voir pour mes yeux. L'optométriste m'a fait un examen, puis il m'a dit, ben, ton physiquement, ton corps est correct. Il dit, moi, je pense que c'est ton système d'exploitation qui fonctionne pas. Je n'ai pas trop compris. Il m'a dit, moi, à ta place, j'irai voir un chiropraticien. T'as peut-être un air d'irrité dans ton cou. Moi, j'avais aucune idée c'était quoi un chiropraticien. Donc, je viens de Trois-Rivières. Ma mère m'amène voir un chiropraticien. Je savais que c'était un docteur. Il travaillait en sarro. Il m'a pris des radiographies. Honnêtement, je pensais que c'était un médecin spécialiste. C'est ça que je pensais. Donc, on commence avec les soins. Après la première semaine de soins, j'ai pu recommencer à mettre une verre de contact. Après un mois de soins, j'avais plus de mal de tête, plus de migraines, la lumière me faisait plus mal aux yeux. J'étais vraiment revenu normalement, en fait. Ça, il faut dire, je suis peut-être pas normal, mais bon, je suis revenu normalement. Donc, c'est ça. Fait que là, je trouve ça super intéressant. Puis moi, dans mon cheminement, je m'en allais pas dans les sciences santé au cégep. Parce que pour moi, c'était pas des sciences santé, c'était dans ma tête à moi, c'était des sciences maladies. Le thérapeute traite une maladie. Mais moi, je voulais pas traiter la maladie. Je voulais traiter l'être humain. Si la personne, si son corps fonctionne bien, il y a moins de chances que la maladie s'installe dans notre corps. T'sais, on n'est pas impuissant face à la maladie. Il y a des choses qu'on peut faire avant. Mm-hmm. Et ça va au-delà de la prévention. Donc, moi, je m'en allais comme ingénieur. Parce que, bon, j'étais bon en mathématiques et tout ça. Puis tout le monde me dit, ben, pas tant en mathématiques, tu veux pas aller en médecine. Finalement, j'étais allé faire une tournée des universités. Puis dans les domaines de l'ingénierie, puis j'ai vu que j'aimais vraiment pas ça. Donc, un jour, je suis tombé sur un livre de Dr. Virgil Strang, c'est un Américain, qui parlait de la chiropratique. Et là, dans ça, il parlait de la philosophie chiropratique. Et il y a 33 principes en chiropratique. Et le deuxième principe, c'était que, en fait, c'est que le corps a le pouvoir inné de s'auto-guérir quand il est mis dans les bonnes conditions. C'est-à-dire que si je me coupe, ben oui, je peux mettre un diachylon, je peux mettre une petite crème antibactérienne s'il faut, mais ultimement, c'est pas la crème, c'est pas le diachylon qui va guérir ma coupure, c'est mon corps. Donc, le corps est fait pour se guérir lui-même quand il est dans les bonnes conditions. Donc, moi, mon objectif, je me suis dit, ben, je vais trouver un moyen pour aider les gens à se guérir par eux-mêmes. Vu que c'est moi qui guérisse les gens, je veux que les gens se guérissent eux-mêmes. Et c'est comme ça que j'ai lu ce livre-là, puis je me suis dit, wow, ça, c'est en plein ma façon de penser par rapport à la santé. Et là, j'ai appliqué au programme en chiropratique. Et puis, j'ai été accepté à Trois-Rivières, donc je suis allé à Trois-Rivières.
Et qu'est-ce qui t'a amené, parce que si je comprends bien ou si j'ai bien compris ton parcours, c'est que la chiropratie que tu pratiques aujourd'hui n'est pas nécessaire. C'est une branche. Explique-moi un peu la neuro-optimisation. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que c'est différent de la chiropratique que tu as apprise à l'université?
C'est très différent. C'est très différent. La chiropratique qu'on apprend à l'université, c'est, moi je dirais, puis c'est pas mauvais, okay? C'est pas ça que je dis, c'est juste que l'objectif est différent. Comme j'ai dit tantôt, moi mon but est que le corps se guérisse par lui-même. Quand je fais mon examen sur mon patient, ce que j'explique à mon patient, c'est que je regarde pas, oui je vais regarder ses symptômes, je vais regarder ses douleurs, ses problèmes pour lesquels il vient de me voir, mais mon emphase, mon focus va être davantage sur l'être humain, la personne. Qu'est-ce qui a fait que cette personne-là se rentre à cet état-là de santé? Tandis que à l'université, on est plus, on va dire, symptomatique. J'ai mal à l'épaule, on va traiter l'épaule, on va traiter le cou, on va faire ça. Mais moi, c'est de voir la personne vraiment dans sa globalité. Et en neuro-optimisation, ben, ça m'a pris des années, en fait, d'étudier là-dedans, parce que c'est des cours qu'on fait aux États-Unis, il y en a au Canada aussi, en Europe. Et puis, le but de la neuro-optimisation, c'est vraiment d'optimiser, d'améliorer le fonctionnement du système nerveux. Et le système nerveux, c'est quoi? Ben, c'est mon cerveau. Puis mon cerveau, ben, c'est l'ordinateur de mon corps. Fait que c'est lui qui gère.
C'est un peu le système d'exploitation que l'opticienne ou l'optométriste avait dit.
Exactement.
Voir, il y avait quelque chose qui se passait avec ton système d'exploitation.
C'est exactement ça, Annie.
Le iOS ou le Windows. Ou le...
C'est exactement c'est ça. Nous, on appelle ça, en anglais, ils appellent ça, les collègues que je fréquente, ils appellent ça le iOS.
Le iOS.
Alors, c'est-à-dire que, tu sais, comme sur votre téléphone, sur nos téléphones, on fait des mises à jour. Mais notre corps, c'est la même chose. Des fois, c'est que si mon téléphone, je ne fais pas de mise à jour dessus, ou mon ordinateur, par exemple, ben, il va fonctionner plus lentement. Et on va avoir plus de difficultés avec lui. La technologie évolue, mais mon téléphone ne sera pas capable de suivre. Mon corps, c'est la même chose. Si on ne fait pas des mises à jour à notre corps, ben, on a toujours des stresseurs de l'environnement. Donc, c'est de fortifier notre corps au lieu de l'amener en état zéro. Ben non, on veut améliorer comment il fonctionne pour qu'il soit capable de faire face davantage à des stress externes. Et l'autre grosse différence aussi, juste rajouter ça, c'est qu'en neuro-optimisation, on ne fait pas de manipulation. C'est vraiment des stimulations neurologiques qu'on va faire pour aller stimuler une partie du cerveau, c'est la partie antérieure, la partie en avant de votre crâne, qu'on va, en fait, du cerveau, de votre cerveau, qu'on va aller stimuler. Et ça, c'est la région la plus évoluée de votre cerveau, de votre corps, en fait. Donc, on va la stimuler pour que le iOS le plus évolué gère votre corps de façon plus efficace.
Si on revient à ton parcours, qu'est-ce que tu dirais qui est le plus grand défi que tu as eu à surmonter depuis tes débuts comme docteur en chiropratique?
Oh, le plus gros défi, c'est certainement l'acceptation de la population. Il y a beaucoup de préjugés face à la chiropratique et on nous met tous dans le même panier. Mais en fait, en chiropratique, c'est beaucoup... Mais en fait, c'est comme la médecine ou c'est comme la médecine dentaire. Tu sais, il y a des dentistes qui sont chirurgiens-dentistes. Il y a des dentistes qui sont orthodontistes. Il y a des dentistes plus généraux. En chiropratique, c'est la même chose. Pardon. Légalement, au Québec, présentement, on peut pas dire qu'on a des spécialités. Sauf que moi, ça fait quand même 12 ou 13 ans que je fais que des cours sur la neuro-optimisation. Je pense que j'atteins une certaine forme, on peut dire, d'expertise par rapport à ça, mais j'ai pas le droit de dire que je suis spécialiste. Donc, la plus grosse difficulté, c'est qu'on voit tous comme si on était tous égaux. Il y en a qui sont plus urgentologues en tant que chiropratien. Moi, je suis un petit peu moins urgentologue. Je peux travailler avec des urgences, mais moi, c'est plus d'optimiser le système nerveux pour qu'un corps travaille bien à long terme. C'est un petit peu comme le yoga. Moi, je suis allé deux fois en Inde. Puis la première fois que je suis allé en Inde, je connaissais rien du yoga. Je suis allé dans un centre de yoga qu'on appelle un ashram là-bas en Inde. J'ai rencontré des vrais yogis, des vrais maîtres, des vrais gourous, qu'on pourrait dire. Ici, le mot gourou, il y a une connotation négative par rapport à ça, mais en Inde, c'est vraiment comme un professeur. Et il y a différents types de yoga, mais ils ont pas mal tous le même objectif, c'est-à-dire d'atteindre l'état de yoga, qui est l'état d'union par rapport à ça. Fait qu'en chiropratique, on a plusieurs, tu sais, comme ça, j'ai pas le droit de dire spécialité, mais on va dire différents focus, on va dire, par rapport à notre pratique. Donc, il y en a qui font des manipulations, il y en a qui vont utiliser des outils. Donc, c'est vrai, il y en a qui vont plus utiliser, par exemple, des suppléments. On est tous différents, puis je pense que dans nos différences, ça fait nos forces.
Exact, exactement. Et ça serait quoi le conseil, parce qu'on a des auditrices qui écoutent, mais tu sais, si tu penses à ton parcours... au Ghislain de 10 ou 15 ans, quand tu as commencé ta jeune carrière à ce moment-là comme chiropraticien, ce serait un conseil à quelqu'un qui n'a jamais eu de soins de chiropratie pour l'aider justement à peut-être défaire certains préjugés?
Même un conseil général aux gens que je peux donner, c'est que souvent les gens ils pensent que parce qu'ils ont pas mal quelque part, qu'ils sont en santé. Ils pensent que pas douleur égale santé. Puis c'est ça qui est véhiculé. Moi, les deux derniers médecins que j'ai vus dans ma vie, ils m'ont dit « t'es trop en santé ». Ils m'ont dit ça, littéralement, ils m'ont dit « t'es trop en santé » parce que j'étais asymptomatique. J'ai eu un accident, je me suis évanoui, j'étais à l'hôpital, j'ai passé la nuit en observation. Le lendemain, la neurologue est venue me voir. Elle a dit « bagarre, va-t'en, t'es trop en santé ». Mais pourtant, il y a des choses que je
peux faire.
Ouais, t'es trop. Je vous jure, c'est ce qu'elle m'a dit littéralement. Mais c'est parce que pour elle, sa définition de la santé, c'est que je n'avais pas de test qui était positif par rapport à son focus, à elle, par rapport à sa spécialité. Mm-hmm. Je n'avais pas de dysfonction neurologique importante. Donc, j'étais en santé. Ce que je veux dire aux gens, c'est que souvent les gens vont dire bah, j'ai pas besoin d'avoir de chiropratien, j'ai pas mal dans le dos. Puis en passant, moi, je ne traite même pas les maux de dos, je m'occupe de l'être humain derrière le mal de dos. Mm-hmm. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on a pas mal qu'on est en santé. La preuve de ça, c'est que je pense qu'il y a le tiers des gens qui meurent du cancer, ou si c'est pas plus. Mais le cancer, ça fait pas mal. Mais le cancer, ça arrive pas du jour au lendemain, ça prend des années, voire des décennies avant d'apparaître. Puis en passant, on a tous le cancer. Qu'est-ce qui fait que chez certaines personnes, ça s'exprime, chez d'autres personnes, ça s'exprime pas? Il y a plusieurs facteurs au niveau de la santé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on a pas mal qu'on est nécessairement en santé. Donc, l'être humain, on est tous paresseux, tu sais, on va en faire le moins possible. Mais souvent, les gens vont dire ça, mais je vais pas d'aller te voir parce que j'ai pas mal. Mais ça, c'est ces gens-là, je le répète, bon, ben toi, tu t'assois à terre en Indien, comme en Inde, tu t'assois à terre en Indien. Tu t'assois jamais là sur une chaise. Toi, tu travailles physiquement, tu travailles debout. Donc, ça veut dire que toi, tu n'es jamais sur ton téléphone penché par en arrière comme une crevette. les gens, leur colonne vertébrale, c'est vraiment, en anglais, ils disent ça, le backbone, c'est la poutre de ton corps. Et cette colonne vertébrale-là, ce qui est le plus important, en fait, la raison pour laquelle moi, personnellement, je me concentre beaucoup sur la colonne vertébrale, un petit peu moins sur les articulations périphériques, comme par exemple le poignet ou l'épaule, c'est que le poignet ou l'épaule, il n'y a pas un gros câble électrique qui passe dedans. Dans la colonne, tu sais, Annie, t'es massothérapeute, là, oui. Dans la colonne vertébrale, il y a un gros câble électrique qui passe là-dedans, qui relie mon cerveau avec tous les autres organes du corps humain.
Il y a des embranchements qui mènent vers les autres.
Exactement, il y a des embranchements, les nerfs ou nerfs spinaux. Donc, ces nerfs-là sont protégés par notre colonne vertébrale. Donc, si notre colonne vertébrale, il y a un mauvais mouvement, un mauvais fonctionnement, pour différentes raisons, on a tous eu des traumatismes dans notre vie. Mm-hmm. On a tous tombé. Apprendre à marcher, ça a l'air qu'on tombe plus que 3000 fois pour apprendre à marcher. Et selon les statistiques, j'ai fait un an en pédiatrie chiropratique, selon les statistiques, nos parents, en fait, vos parents vous auraient échappé au moins une fois sur la tête durant votre enfance. Fait que des fois, je vois des parents qui amènent leur bébé, ils se sentent très mal, j'ai échappé, c'était pas de ma faute. Non, je sais. Non. Tes parents aussi t'ont échappé au moins une fois sur la tête. Donc, tous ces petits traumatismes-là, on les sent pas. Mais à la longue, ça peut avoir des répercussions sur tout le monde. C'est comme acheter une voiture neuve, puis la faire rouler très vite dans les trous à Gatineau, la faire rouler dans les nids de poules. De voir une suspension neuve, mais un jour, entre guillemets, elle va lâcher.
Et puis, pour le bien encore des auditrices, dans ta pratique de neurooptimisation, c'est quoi l'outil? Parce que souvent, les gens vont dire, ben, est-ce que, bon, excuse-moi par l'expression, mais est-ce qu'on craque en neurooptimisation? Est-ce qu'il y a des outils, des tables? C'est quoi l'outil que tu utilises le plus souvent dans ta pratique et pourquoi?
En fait, la réponse rapide, c'est le corps. Mais je comprends ta question. En fait, non, je ne fais pas de manipulation, je ne fais pas, en guillemets, de craquement. Encore une fois, pas parce que c'est négatif. En fait, souvent les gens me disent « Ah, il y a des risques aux manipulations. » En fait, ça dépend qui les fait. Tu sais, si ma conjointe me fait une manipulation, oui, il y a des risques. Mais tu sais, là, on a un docteur qui étudie 50 ans à l'université, qui fait 245 crédits universitaires, qui souvent va prendre des radiographies sur ses patients pour voir qu'il n'y a pas de contre-indication de danger. Mais on s'entend que les dangers sont très minimes. Exact. Tu sais, c'est comme prendre l'avion. Ben oui, je vais prendre l'avion si le pilote, c'est lui qui pilote l'avion. Mais si c'est mon dentiste, par exemple, qui pilote l'avion, je suis pas sûr que je vais prendre l'avion. Là, il y a des dangers. Mais pour en revenir à ça, donc moi, je fais des stimulations neurologiques. Et donc, en gros, on fait l'examen sur notre patient, on détermine comment on doit stimuler notre patient. Et suite à l'examen, là, on fait un protocole de soins. Le patient, habituellement, va commencer les soins couchés sur le ventre, sur une table. Et là, je vais faire des stimulations à différents endroits. Principalement au niveau du cou et au niveau le bas du dos, ou ce qu'on appelle le sacrum aussi, qui est au niveau des muscles fessiers. On va faire des stimulations à ces endroits-là. Pourquoi? Parce que c'est là que notre moelle épinière, notre câble électrique, s'attache. S'attache en haut au niveau du cou et en bas de la colonne. C'est à peu près là qu'on va faire des stimulations. Donc, moi, je vais faire une stimulation. Ça va envoyer un signal sensoriel au cerveau, la partie en avant du cerveau, pour que le cerveau se rende compte que, oh, j'ai tel muscle qui est tendu. Que, oui, c'était bon que ce muscle-là soit tendu il y a un mois lorsque j'ai soulevé une charge de la mauvaise façon, lorsque j'ai pris mon enfant, je l'ai sorti tout croche de l'eau. Mais maintenant, un mois après, ce muscle-là, il n'y a plus besoin d'être tendu, il n'y a plus besoin de me protéger. Donc, on va faire des stimulations. Puis, il y a deux façons principales avec le corps, lesquelles, le corps relâche les tensions. La première façon de relâcher des tensions, c'est avec le mouvement. Le corps va bouger, mais du mouvement vraiment spécifique à certains endroits. La deuxième méthode que le corps a pour relâcher les tensions, c'est avec la respiration. Une respiration neurologique, une respiration coordonnée. Et chaque fois que vous respirez, comme présentement vous respirez à la maison, mais chaque fois que vous respirez, votre colonne elle bouge. Le problème, c'est des fois, il y a des endroits qui ne bougent pas. Et ça, on ne le sent pas. Fait que les régions qui ne bougent pas, c'est de l'information de moins que votre cerveau a. C'est des stimulations en moins que votre cerveau n'aura pas. Parce que votre cerveau se nourrit du mouvement. Se nourrit de chaque fois qu'une vertèbre va bouger sur une autre, ça envoie des signaux électriques. Un petit peu comme un dynamo, mettons, sur un vélo qui fait allumer la lumière sur votre vélo. Ça envoie des stimulations. Fait que s'il y a un endroit qui ne bouge pas bien dans votre colonne, bien, c'est de l'information en moins. En fait, c'est comme de la nourriture, on va dire, en moins pour votre cerveau par rapport à ça. Et ça, même si on a pas mal. Quand on a mal, en fait, la douleur, comme tu sais, Annie, c'est la dernière étape de la maladie.
La dernière étape, habituellement. Oui.
C'est ça.
Tout à fait. OK. Puis, présentement, ce serait quoi le gros défi devant pour toi à la clinique au courant de la prochaine année? Qu'est-ce qui s'en vient de ton côté au niveau de ton entreprise?
Ben, en fait, mon gros défi, c'est toujours les formations. C'était juste de moi, je suis toujours en formation. Là, durant le confinement, j'ai profité de plusieurs formations. Par rapport à ça. Mais moi, je pense que le gros défi, ça va être aussi d'avoir de changer la pensée des gens. En fait, je vois ça comme un défi, mais aussi comme une opportunité par rapport au virus qui vient d'arriver. Bon, tout le monde, on a chacun notre opinion par rapport à ce qui se passe présentement. On est tous des gérants d'estrade. On a chacun notre opinion. Puis, en tout cas, même les scientifiques ne s'entendent pas pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais, monsieur, madame, tout le monde dans la rue, chaque personne va vous donner une opinion par rapport à ce qui se passe. Moi, je vois ça comme une opportunité pour que les gens réalisent que la santé, c'est précieux. Puis qu'il faut prendre soin de notre santé. Tu sais, c'est plus facile de garder, de maintenir une personne en santé que d'essayer de ramener une personne qui est malade. Mm-hmm. Par exemple, c'est beaucoup plus facile d'avoir un poids santé, de continuer à bien manger, de faire de l'exercice, de méditer. C'est beaucoup plus facile quand on n'a pas de poids à perdre que quand j'ai 50, que je me réveille un matin, là j'ai 50 livres en trop, là je vais faire des changements, mais ils sont durs à faire, ces changements-là. Donc, c'est plus facile pour quelqu'un d'avoir une bonne santé quand il n'est pas infecté par un virus, de la maintenir, que d'attendre que le virus s'installe et là qu'on doit traiter avec plein de choses. C'est le défi, c'est vraiment de faire réaliser aux gens que, regardez, la santé, en fait, c'est l'adaptabilité. Si ton corps est capable de s'adapter à son environnement externe et interne, il est en santé. Plus il est capable de s'adapter, plus il est en santé. Moins il est capable de s'adapter, plus la maladie va arriver.
Mm-hmm. Fait que la santé, c'est pas l'absence nécessairement de malaise, mais c'est plus une façon, c'est prendre soin de soi en prévention, de faire au quotidien des routines qui vont nous aider. Et ça, ben, comme on disait au début, tu disais au début de l'entrevue, des fois, l'humain, on est un peu paresseux et on oublie.
Moi le premier, hein? Moi le premier.
Ah, oui, moi aussi. Mais quand on se rappelle après ça, quand on a des outils de plus dans notre coffre à outils, on reste moins longtemps dans cette paresse-là parce qu'on ressent les bienfaits. Des outils qu'on utilise, que ce soit la neuro-optimisation ou autre chose. Moi, je peux vous le dire, en fait, si jamais vous voulez aller essayer des soins éventuellement quand le confinement sera terminé, je vous recommande d'essayer de la neuro-optimisation. Ça fait une grande, grande différence. Une grande différence au niveau du calme, au niveau du focus, à plein de niveaux. Et je pourrais passer un podcast à vous raconter mon expérience et mon histoire. Mais aujourd'hui, vraiment, Ghislain, merci d'avoir pris du temps avec nous pour nous jaser de ce que tu fais, de ta vision aussi de la santé. J'aime beaucoup. Puis, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que Ghislain offre, vous pouvez aller retrouver de l'information sur chirodegamme.com et en profiter aussi peut-être pour vous abonner à leur infolettre parce que je pense qu'ils donnent aussi plein de trucs. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que Ghislain a un petit quelque chose juste pour vous, une belle offre à vous faire et des petits trucs pour ceux et celles qui sont en télétravail. Donc, sur ce, bonne semaine. Encore une fois, merci Ghislain.
Merci à toi, Annie. Ça fait un grand plaisir. Puis, je souhaite vraiment une bonne santé aux gens qui nous écoutent. Puis, je veux leur rappeler que la santé, ça se travaille. C'est pas juste un souhait. Ça se travaille. Puis, ça se travaille quotidiennement. Chaque petite décision que vous prenez a un impact sur la santé. Donc, merci beaucoup, Annie.
Bienvenue. Chaque petit pas compte. Exact. Sur ce, bonne semaine. À la semaine prochaine. Même heure, même poste. Ciao. Merci d'avoir été avec moi dans cet épisode du podcast Les Essentiels d'Annie. Retrouvez-moi la semaine prochaine, même heure, même poste, pour une vie remplie de vitalité, de sens et d'abondance. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook et mon blog Les Huiles de la Chance, dont les liens sont en commentaire sous les notes du podcast. Vous pouvez aussi vous abonner à l'infolettre afin de recevoir du contenu exclusif. D'ici là, portez-vous bien! Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donc, comme on vous l'avait promis, Dr. Ghislain Lacourcière est resté avec nous pour vous parler de petits trucs parce que plusieurs d'entre nous sommes en télétravail présentement et je suis certaine qu'il y en a plusieurs qui ont des petits malaises ou des petites raideurs. Donc, Ghislain, j'ai vraiment hâte d'entendre les petits trucs que tu as à nous proposer.
Merci Annie. Le truc que je vais vous donner, c'est un truc que je donne à mes patients et patientes justement qui font du télétravail, qui sont devant l'ordinateur. Et souvent, quand on donne des trucs à des patients, moi j'aime ça quand c'est simple mais efficace. Donc le truc simple que je vais vous donner, c'est vraiment sur votre ordinateur, sur votre téléphone, mettez-vous une minuterie pour 20 minutes qui sonne avec un bip à chaque 20 minutes. Et lorsque vous allez entendre ce bip-là, ce que je veux que vous fassiez, je vais vous prenez un 30 secondes, on va se lever debout. On va bouger les épaules, on va prendre une bonne inspiration. Si vous n'avez pas de problème au niveau du cou, regardez en haut, regardez le plafond. Puis restez là, 5, 10, 15 secondes à respirer et à détendre vos muscles. Et là, rassoyez-vous, recommencez à travailler. Cette pause-là, de 30 secondes, 1 minute s'il faut, elle n'est pas longue, ça va vous garder focus sur votre travail. Parce que si vous prenez une marche de 5 minutes, vous allez venir au travail, vous serez plus aussi productif ou productive. Donc, levez-vous, prenez une bonne respiration, bougez les épaules, levez un peu les genoux, puis on se rassoit. Puis on se rassoit comment? On se rassoit correctement. On recule les fesses sur le dossier, on recule notre tête aussi. Souvent, les gens vont se pencher par en avant, ils ont l'air de crevettes, comme je disais tantôt dans l'entrevue. Donc, reculez votre tête et on recommence à travailler. 20 minutes plus tard, bip, un petit signal, on se lève, on bouge les épaules, on respire, on regarde dans les airs, on se rassoit, on recommence et ainsi de suite. C'est un truc qui est simple, qui est efficace. Évidemment, ça va pas corriger des problèmes au niveau de la colonne vertébrale, mais au moins, ça va vous garder bien focus sur votre travail.
Exact. Et ça coûte rien. Ça vous coûte quelques secondes de votre temps. Hein? Et donc, vraiment, merci beaucoup. Je vais l'appliquer. C'est une très bonne idée. Je le fais, absolument, je défais mes épaules, mais de lever le cou vers le haut, là.
De faire se lever de la chaise.
C'est se lever debout aussi, là.
Se lever debout, là, c'est une grande différence.
Pour faire circuler, refaire la circulation partout dans le corps. Aussi, mais merci beaucoup pour le truc, Ghislain. Aussi, pour vous, chères auditrices, si vous contactez Chiro de Gamme, donc vous pouvez aller sur leur site web, encore une fois, chirodegamme.com, vous les contactez pour prendre un rendez-vous en mentionnant que vous avez écouté le podcast, l'épisode 12 d'aujourd'hui, vous allez avoir $50 de rabais sur votre examen avec Dr. Ghislain. Donc, c'est très généreux. Merci beaucoup, Ghislain, de ta grande générosité. $50 sur l'examen en mentionnant simplement que vous avez écouté l'épisode 12 du podcast Les Essentiels d'Annie. Donc, merci encore une fois. Faites votre petit exercice. Mettez votre petite alarme à toutes les 20 minutes, comme Ghislain vient de vous dire. Levez-vous debout. Faites le petit exercice avec la tête vers le haut, les épaules dégagées. Puis bon focus, bon télétravail, puis on se revoit la semaine prochaine.